suite d'une, je sais pas comment je vous ai dit exactement, d'un affaiblissement de la confiance chez Sarah et chez Abraham. Vous vous rappelez, ça nous l'avons étudié assez attentivement la semaine dernière, à travers toutes les péripéties de la révélation de la promesse concernant la postérité d'Abraham et de Sarah. Vous vous rappelez que cette promesse est répétée jusqu'à ce que finalement elle soit intégrée par Abraham. Entre-temps, il y a eu un fléchissement de la confiance, on peut récapituler ça comme ça, et Ishmaël est né. Après, il y avait d'autres dimensions dans ce problème. Corollairement, il y avait une générosité de la part de Sarah, générosité qui a été mal récompensée, enfin, vous vous rappelez, de l'ensemble du récit. C'est clair ? Et nous avons étudié en particulier la dernière fois un verset du chapitre, je vais le dire tout de suite, 18, je crois. Non, 21. Le chapitre 9 du verset 21, c'était le verset 9 du chapitre 21, et le rire d'Ishmaël. Nous l'avons étudié. Oui. Et c'est à ce moment que la Torah nous indique de façon très claire que la rivalité, la querelle entre Ishmaël et Yitzhak portera sur l'héritage terrestre, c'est-à-dire la promesse de la terre. Vous vous rappelez de cela ? Bon. Alors, avant d'aborder le chapitre 25, vous voyez que je vais assez vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour voir tout cela, mais reprenez l'organisation du récit par vous-même. Et puis, d'année en année, vous arriverez à enrichir et à préciser tout cela. Je vais vous lire un texte du Zohar concernant ce problème que nous avons mis en évidence, le fait qu'il y a eu un moment de fléchissement de la foi chez Abraham et chez Sarah, et la conséquence a été la naissance d'Ishmaël. Et corollairement à cela, je vous avais parlé assez longuement la dernière fois d'une sorte de complaisance d'Abraham lui-même vis-à-vis d'Ishmaël. Vous vous rappelez de cela ? C'est clair ? Non. Et alors je pense que vous avez le récit en tête, mais en particulier on reprendra un passage du chapitre 17. Alors vous allez lire d'abord au chapitre 17. Dans ce chapitre 17, nous est annoncé le changement de nom d'Abraham en Abraham et de Sarai en Sarah. Nous avons déjà étudié ce changement de nom ? Oui. Stop. Et c'est corollaire à l'alliance de la circoncision. C'est le thème général du chapitre. Alors vous allez prendre au verset 15. En hébreu, chapitre 17, verset 15. Alors là nous sommes sur le verset où est indiqué le changement de nom de Sarai en Sarah. Et je rappellerai l'explication que nous avons eue à ce sujet. Vayomer Elohim El Abraham. Déjà, le nom d'Abraham a été changé en Abraham. Vous le verrez depuis le début du chapitre. Jusque-là, son nom était Abraham. Et c'est encore au temps où il s'appelle Abraham, encore à ce stade-là, de la première période de sa vie dans le pays de Canaan, que Ishmaël est né. Donc retenez bien ce principe, Ishmaël s'appelle originellement Ishmaël ben Abraham, alors que Yitzhak va naître après le changement de nom. Et donc Yitzhak s'appellera Yitzhak ben Abraham. Retenez bien, parce que ça va être important pour la suite. Retenez bien ce principe. Alors là, au verset 15, c'est le nom de Sarai qui sera changé en Sarah. Vayomer Elohim El Abraham, et Dieu dit à Abraham, Sarai Ishtecha, Sarai ta femme, Lo Tikra et Shema Sarai, tu n'appelleras pas, tu ne nommeras pas son nom Sarai, qui Sarah Shema, mais Sarah sera son nom. Quelle est la différence entre Sarai et Sarah ? Sarai, ça veut dire ma princesse, et la forme grammaticale que vous retrouverez le plus, c'est Sarati. Mais Sarai a le même sens. Sarah, Sarati. Sarah, la princesse. Sarati, ma princesse. Sarai, princesse de moi. Et Sarah, c'est la princesse en général. Quelle est la différence?
Est-ce qu'il y a aussi un jeu avec le fait que I, c'est pour le pluriel?
Non. I, le pluriel, il y a un patah. Ici, il y a un kamet. Ça voudrait dire, Sarah, mes princes, au masculin, pluriel avec un patah. Sarah, top. Et je ne sais même pas si on dit ça comme ça, attendez que je réfléchisse. Sar, Sarim, Sarai. Oui, mais je ne vois pas de verset où il y aurait ce mot-là. Enfin, s'il y avait un verset où il y avait ce mot-là, il serait comme ça. Donc. Alors, quelle est la différence entre Sarai, ma princesse, et Sarah, la princesse?
C'est la princesse et le deuxième.
Oui, c'est le passage à l'universel. Vous vous rappelez de cela? Et d'ailleurs, cet empêchement à la fécondité et cet empêchement d'intégrer les promesses, les triples promesses qui sont données à Abraham, sont reliés à ce fait que l'identité araméenne de Abraham est encore trop spécifique, trop partielle, trop particularisée. Elle est d'une certaine manière un empêchement au passage à l'universel. C'est-à-dire la différence entre l'identité araméenne et l'identité hébraïque à ce niveau-là, c'est que l'identité araméenne, c'est l'identité hébraïque qui risquerait d'être ramenée aux dimensions d'une parmi les manières d'être homme, au même niveau. Avec quand même quelque chose de différent. Quelque chose de différent, c'est que malgré tout, l'araméen porte en lui en puissance, occultée, suivant les efforts plus occultés, moins occultés, l'identité hébraïque elle-même, ce que ne porte en elle aucune des autres manières d'être homme des nations. Vous vous rappelez ce que nous avons appris après la civilisation de Babel, où l'unité humaine a éclaté en, vous vous rappelez, combien de nations de base?
70.
Chacune d'entre elles étant une manière d'être homme, mais partielle. Et c'est la raison pour laquelle l'idéal de l'universel n'a jamais pu réussir à travers les nations, pour cette raison essentielle, qui fait que, a priori, il n'y a pas d'issue possible, c'est que chaque nation particulière comme véhicule de ce rêve de l'universel finit par se transformer en impérialisme. Vous vous rappelez de cela? C'est clair, je ne reviens pas sur ces définitions. Parmi ces nations-là, les 70, il y en a une qui a gardé de façon plus indifférenciée que les autres l'identité humaine en général qui avait éclaté dans ses différentes manières d'être homme. C'est clair jusque-là? C'est-à-dire chacune de ces manières d'être homme s'est finalement figée dans un profil très particulier qui a sa propre histoire, mais qui est celui-là et pas un autre. C'est-à-dire il y a un décalage entre le niveau de vérité auquel n'importe quel homme, de quelque nation que ce soit, peut accéder à l'échelle individuelle dans le rêve de l'universel, et d'autre part, le niveau de la réalité concrète, où il y a un empêchement à ce que cela réussisse, parce que le véhicule est trop particulier. Rappelez-vous de l'analyse, de la critique des universalismes à ces deux niveaux. Au niveau du programme, je ne sais pas comment, je cherche un mot en français qui ne serait pas seulement le rêve, mais l'idéal, mais du projet. Au niveau du projet universel, il y a au début authenticité absolue, vous vous rappelez de cela? Mais dès que ça commence à se concrétiser dans l'histoire de la réalité, étant donné que le véhicule humain qui est le moyen de tentative de réaliser ce rêve de l'universel est très particularisé, chacun des goïms, alors ça capote en universalisme. Vous vous rappelez de ça? Alors parmi ces 70 nations, je schématise beaucoup parce qu'en réalité, Aram est un peu en dehors des 70 nations, mais enfin, on va le mettre dedans. Parmi ces 70 nations, il y en a une qui, enlevez le mot de nation, de manière de prendre, résultant de l'éclatement de l'unité humaine après Babel, il y en a une qui a gardé cette identité humaine indifférenciée dans sa forme hébraïque. C'est l'identité araméenne. Mais tant que cette gang, écorce, je ne sais pas comment vous dire, mais vous êtes familier à ce vocabulaire maintenant, Aram est trop forte, alors le passage à l'universel est empêché. Et nous avons là la définition très claire du cheminement de mutation d'identité qu'Abraham doit faire pour devenir Abraham et corollairement Sarai pour devenir Sarah. Et ce changement de nom indique que la mutation s'est faite. Alors, les promesses peuvent commencer à se réaliser. C'est clair? Et c'est pourquoi c'est immédiatement après l'indication du changement de nom de Sarai en Sarah que va être appelée la promesse de la fécondité pour Abraham et Sarah, alors que Abraham et Sarah étaient empêchés d'enfanter l'être hébreu de l'avenir, Abraham et Sarah, eux, c'est les mêmes, mais en changement d'identité, vont être capables de le faire. Ça va jusque-là ? Seulement voilà qu'entre-temps, Ishmaël est né. C'est clair ? Alors retenez bien ces données du problème. Alors, prenez le verset maintenant, la suite, dans le chapitre 17, verset 16, on a lu le verset 15 tout à l'heure, « Ou Berarti Ota, et je la bénirai. » Nous aurons l'occasion plus tard, peut-être on l'a déjà fait, mais je ne m'en rappelle pas, d'étudier cette notion de bénédiction. « Je la bénirai », ça veut dire « Je la rendrai féconde. »« Vegam natati mimena lecha ben. » Et je te donnerai, et je te donnerai à toi d'elle un fils. On peut le traduire autrement, et c'est d'elle que je te donnerai un fils, à toi. Vegam natati mimena lecha ben. Remarquez la forme en hébreu. Natati, c'est un futur ou un passé ? Un passé. Alors qu'il s'agit d'une promesse, mais c'est mis au passé, parce que les conditions sont réalisées, alors c'est comme si je te l'ai déjà donné. Vous rappelez de ça ? Et Veïta l'Egoïm, elle deviendra, sous-entendu, la source, la matrice de nations au pluriel, c'est les 12 tribus. Chacune des tribus est appelée un goy en Israël. Malché Amim Imenaïjou, les rois des peuples, c'est d'elles qu'ils viendront. Verset 17. Vaipol Abraham Alpana Vaitzrak. Et Abraham se jeta à terre, littéralement, c'est tombé sur sa face, il s'est prosterné, Vaitzrak, et il a ri. Vayomer Belibo, et il a dit en son cœur, il s'est dit, Haleben Meashana Ivaled, est-ce que un homme âgé de 100 ans peut enfanter? Veim Sarah Habat Tishmushana Teled, et est-ce que Sarah, qui est âgée de 90 ans, peut enfanter? Vayomer Abraham Ela Elokim, et voilà le verset important sur lequel on va s'appuyer. Et Abraham dit à Dieu, Lou Ishmael Ichye Lefanecha. Lou, l'amed vav avec le chourouk, lou, ça veut dire quoi en français, lou? Mais regarde,
puisse.
Ben, puisse. Comment vous traduisez lou par puisse?
Est-ce que. Est-ce que.
Ah, est-ce que c'est déjà mieux? Lou. La traduction la plus littérale en français, et qui est d'ailleurs très littéraire, c'est l'expression du souhait. Fasse que lou. Est-il possible que. Plaise à Dieu que loup, aussi loup. Ishmael, Ichye Lefanecha, qu'Ishmael vive devant toi. Lorsque, en fin de compte, Abraham entend de nouveau rappeler cette promesse, que non seulement lui est capable d'engendrer, Abraham est devenu Abraham, mais qu'il ne s'agit plus simplement d'un fils d'Abraham comme il a pu l'avoir avec Agar, Ishmael, mais qu'il s'agit de l'enfant de la promesse de fécondité dont il est parlé, avec Sarai. Alors il y a deux éléments. Premièrement, encore cette réticence à croire, est-ce que c'est possible ? Et essayons de situer la scène. Qui lui parle dans ce dialogue entre Dieu et Abraham ? Qui parle à Abraham ? C'est Dieu. Et Abraham est connu, déjà des récits précédents, comme celui qui en fin de compte a fait confiance. Et c'est Dieu qui lui dit... tu auras un enfant, et Abraham, je ne veux pas dire doute encore, mais doute de lui que ce soit possible, et aussi de Sarai. Vous voyez, premier élément. Deuxième élément, l'attachement à Ishmaël. Alors on va partir de cela. Vous verrez la suite du texte. Dieu entend cet attachement d'Abraham à Ishmaël, et donc, pour Ishmaël, il y aura ses propres bénédictions. On va les lire, prenez au verset 20 du même chapitre. Verset 20, où Ishmael Shemarticha, et quant à Ishmael, en ce qui concerne Ishmael, je t'ai entendu, regardez là, prêtez attention à la relation des termes, où Ishmael Shemarticha, et en ce qui concerne Ishmael, je t'ai entendu, c'est le même mot. Hine berarti oto, voici je l'ai béni, veifreti oto, je l'ai fait fructifier, veifreti oto, je l'ai multiplié, limod meot, très abondamment, Shnem Asar Nesim Yolid, il engendrera 12 princes, Nutatib le Goyadol, et j'en ferai une grande nation. Mais, verset 21, Vet Beriti, mon alliance, Akim et Itzrak, mais mon alliance, je la réaliserai avec Isaac. Asher Teled Lecha Sarah, que Sarah enfantera pour toi. La Moed Azé, Beshana Achet. À cette même époque, l'année je vois d'ailleurs qu'au chapitre 18, c'est la naissance d'Isaac, qui va être déjà amorcée. Bon. Alors on va partir de ces éléments. C'est-à-dire qu'entre-temps est né Ishmaël, et va commencer cette histoire de la rivalité entre Ishmaël et Yitzhak, dont nous savons déjà qu'elle a pour objet essentiellement l'héritage de la terre d'Israël. C'est clair. Et donc comment la Torah nous met en place les données d'un des problèmes de rivalité que nous avons vu dans le schéma général, et qui est celui qui nous a accompagnés jusqu'à présent, et c'est maintenant qu'il éclate de façon... de notre temps, qu'il éclate de façon totale. Ça va jusque-là ? Peut-être que nous aurons l'occasion de reprendre le critère de distinction, de séparation entre Ishmaël et Yitzhak, mais nous l'avons déjà étudié la semaine dernière. Yitzhak, c'est le rire au futur, et Ishmaël, c'est le rire au présent. Vous vous rappelez de cela ? Bon. Alors, je vais vous lire ce passage, et ensuite on abordera le chapitre 25. Alors, vous avez sous les yeux ces deux versets-là. Le verset 18. Lo Ishmaël ichye lefanecha, fait que Ishmaël vive devant toi. Et le verset 20, ou l'Ishmaël shemarticha, et en ce qui concerne Ishmaël, je t'ai entendu. Bien, alors je vais vous lire directement en hébreu sur le texte araméen et en français corollaire. Alors ce passage du soir se trouve à la fin de la paracha de Vaera dans le livre de Shemot. Vous savez ce que c'est que le Zohar ? C'est un des midrashim sur la Torah. Alors non, ce midrash, il s'appelle le Zohar, qui est un monument pour lui-même. Nous avons une explication de la Torah Al-Pia Kabbalah, d'après l'enseignement de la Kabbalah. Et là, le Zohar rappelle à la fin de la paracha de Vaera ce qui s'était passé entre Abraham et Ismaël et la manière dont ça va peser sur l'histoire de ces deux lignées et de leur rivalité propre, la rivalité d'Ishmaël contre Yitzhak, qui de nouveau a pour objet l'héritage de la terre. Alors, je vais vous lire en tout cas la plus grande partie du texte, et vous verrez comment nous avons là un exemple de diagnostic dans la réalité de l'histoire de ce qui s'est passé comme événement fondateur au temps des patriarches. Tu peux me donner ma loupe ? Et je prendrai comme postulat de cette illustration un principe très simple. Je crois que j'y ai fait déjà allusion au début de l'année, mais c'est un des principes de base de toute la parchamut, mazé parchamut. Qu'est-ce que ça veut dire parchamut en français ? Hein ?
Exégèse.
Exégèse, explication, commentaire. De toute la parchamut traditionnelle, c'est ceci. Si nous amenons comme postulat que le peuple d'Israël dans l'histoire, c'est bien ce peuple d'Israël dont parle la Bible. C'est clair, ça c'est pas tellement difficile à admettre. Okay, il suffit a posteriori de savoir à quel point l'histoire qu'a vécu le peuple d'Israël, à travers les siècles et les millénaires, eh bien c'est cette histoire qu'a racontée la Bible en préfiguration au niveau déjà de l'identité des pères. C'est bien clair. C'est pas une blague ce que je dis là. Enfin, je veux dire, c'est pas sous forme ironique qu'on peut, sans trop d'efforts, diagnostiquer le fait que le peuple d'Israël dans l'histoire, c'est le peuple d'Israël dont parle la Bible. Pourquoi je vous dis ça comme ça ? Parce que c'est contesté par tous les antisémitismes possibles et imaginables, en particulier l'antisémitisme chrétien. Ce n'est que de notre temps que les chrétiens ont fait cet effort considérable de découvrir que le peuple juif héritier de la nation hébraïque, le peuple d'Israël de l'histoire, c'est bien ce peuple dont parle la Bible. Vous comprenez le problème ? Ça explique, de façon plus ou moins inconsciente, un anachronisme qu'emploient énormément d'auteurs juifs contemporains, en employant l'adjectif juif au lieu de l'adjectif hébreu. Et c'est un anachronisme absolu. Vous verrez dans énormément de livres de grands auteurs, on vous parle du judaïsme de Moïse. Bon, au temps de Moïse, il n'y a pas de judaïsme, c'est l'hébraïque. Bien, les juifs en Égypte, il n'y avait pas de juifs en Égypte, il y avait les hébreux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Très souvent, vous verrez cet anachronisme à livre ouvert. D'où ça vient ? Ça vient d'abord que c'est un anachronisme pur et simple. Il y a une confusion entre le niveau hébreu et le niveau juif, c'est une habitude de l'exil. Et nous savons maintenant assez de choses à ce sujet pour savoir distinguer le niveau de l'identité hébraïque et le niveau de l'identité. Mais peut-être qu'en bonne part, on pouvait l'expliquer comme ça. On a tellement nié que les Juifs soient l'héritier des Hébreux que les Juifs ont fini par prendre l'habitude plus ou moins inconsciente, au lieu de dire Hébreux, ils disent Juifs pour que ça soit clair. Or, c'est pas clair. C'est clair ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous
dites ? Je veux dire que. On dit que tout le monde est antisémite, mais nous, on est anti-tout.
On le serait à raison. C'est pas le cas. J'ai pas parlé de tout le monde antisémite. J'ai parlé de tous les antisémitismes, et il y en a toute une collection. Et en particulier, dans l'antisémitisme théologique chrétien, il y a cette espèce de négation que les Juifs, c'est ça Israël dont parle la Bible. Puisqu'ils substituent une équation que je vais essayer de mettre en forme, il y a d'abord les Hébreux, ensuite les Juifs, mais on parle tout de suite des judéo-chrétiens, et après on parle que des chrétiens. Vous voyez comment les Juifs sont scotomisés. C'est clair. Et soyez bien vigilants à cela.
Non, mais c'est pas...
Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais mobilisé pendant la guerre, les Juifs d'Algérie avaient perdu la citoyenneté française. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'époque de Vichy. Et alors, on était mobilisé à la Légion étrangère. Et alors, je me rappelle qu'un jour, j'étais convoqué par le commandant du camp. Et c'était à Bedeau, à côté de Sidi Bel Abbès. Et puis, comme tout soldat devant un officier, je me mets au garde à vous. Et je me rappellerai toute ma vie, ce brave Goy, capitaine, me regardant d'un air, je ne sais pas comment on peut dire ça, en français pas vulgaire, d'un air ahuri. Il me regarde, et puis il me dit repos, me fait asseoir, il s'approche de moi, il avait tout autre chose à me demander. Il me dit, mais expliquez-moi, comment vous pouvez vous mettre au garde à vous? Je dis, ben... comme j'ai appris, le petit doigt sur la couture du pantalon, vous savez ce que c'est. Il me dit, mais vous êtes juif. J'ai dit, oui, alors. Il me dit, mais un juif ne peut pas se mettre au garde à vous. Pourquoi? Mais parce que les juifs ont des doigts crochus, tout le monde sait ça. Bah, pour vous dire jusqu'où ça peut aller. Hein.
Les doigts crochus.
Un capitaine de l'armée française, il avait appris dans son Talmud Torah, enfin dans l'école du dimanche, il avait appris que les juifs, eh ben, c'est des suppôts du diable, les doigts crochus. C'est tout juste, il ne lui a pas proposé d'enlever mes souliers pour voir si j'avais des sabots. Jusque-là. Bon, après, on est devenus très amis, d'ailleurs, mais pour vous dire jusqu'où ça a pu arriver, ça. Alors, quand il découvre que les Juifs de la réalité, c'est ça, les Hébreux dont parle la Bible, c'est une stupéfaction. Vous vivez dans un petit oasis privilégié, le petit milieu juif où vous vivez, vous avez vos propres évidences intérieures, mais essayez d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans le grand monde. Il a fallu 2000 ans pour que la chrétienté tout entière découvre avec énormément de stupéfaction que peut-être c'est les Juifs qui sont Israël. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Et encore, ils en sont pas encore sûrs. Voilà ce que je voulais dire.
Okay. Et pourquoi c'est pas la même chose?
Et l'histoire des doigts crochus, c'est pas que j'ai entendu quelqu'un qui l'a entendu quelqu'un, ça m'est arrivé à moi. Okay. Alors je peux vous le dire en premier témoignage.
Et pourquoi c'est pas la même chose par rapport aux musulmans? Parce que aussi, quand est-ce que l'identité d'Israël...
Non, c'est pas la même chose. L'identité chrétienne se prétend être Israël. Par conséquent, elle ne peut que scotomiser l'identité juive. Tandis que l'identité d'Ishmaël ne se prétend pas être Israël. Israël, c'est Israël, mais elle lui dispute l'héritage d'Abraham. C'est tout à fait différent. C'est clair. C'est vraiment deux problématiques différentes. D'ailleurs, à la limite, puisque nous parlons de cela, je vous ai déjà indiqué, mais on le reprendra de façon plus systématique, que les deux grands rites, parmi d'autres, vous savez qu'il n'y a pas que les deux rites sfaradi et ashkenazi, dans l'ensemble des rites des tribus d'Israël, il y en a d'autres. Je vous les ai cités au début de l'année, je suppose. Bon. Eh bien, et l'identité du juif sfaradi s'est définie comme étant le juif en exil dans les pays d'islam, c'est-à-dire chez Ishmaël. Et l'identité du juif ashkenazi se définit comme étant l'identité du juif de l'exil chez les chrétiens. Et c'était deux profils d'exil radicalement différents. C'est la raison pour laquelle la réaction de relation entre un juif sfarad et un musulman n'a pas été de la même nature que la relation entre un juif ashkenaz et un chrétien. Parce que le juif qui se trouvait en pays d'islam n'était pas du tout en but à un problème d'identité. Il n'était pas chez quelqu'un qui se réclamait de sa propre identité et le mettant en ghetto, annulé. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors je reprends cette analyse. Bon, ça va nous ouvrir une parenthèse, mais c'est pas inutile.
Dans
l'exil, Slira. Pardon ?
Vous êtes où dans ce coup-là ?
Moi ?
Est-ce que vous avez un mot ashkenaz ou vous êtes séparé ?
Non, 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 mes ancêtres étaient ashkenaz, c'est pour ça que je m'appelle ashkenaz. Mais je suis sfaradi 100%. Mes enfants, déjà moins, puisque ma femme est ashkenaz. Alors, je reviens au problème. D'ailleurs, mes enfants n'ont aucun problème ashkenaz ou sfaradi, ils sont israéliens. Mais pour revenir à l'histoire, je vous raconterai cette histoire un autre jour, quand on aura le temps, comment il arrive que je m'appelle ashkenaz. Donc, je reviens au problème. Et le juif en exil dans les pays d'islam vit la problématique Yitzhak chez Ishmael. Okay. Et il en est résulté une identité sfaradite. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un juif sfaradite ? C'est des juifs de l'exil chez Ishmael. C'est des juifs de l'exil dans les pays d'islam. Ensuite, il y a pu avoir des familles de sfaradites qui ont voyagé dans les pays de chrétienté. Leur fidélité sfarade est restée plus ou moins intacte, plus ou moins entière, mais il n'y a d'identité sfarade que dans la relation du juif dans les pays d'islam. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là ? D'ailleurs, l'âge d'or espagnol, eh bien, n'était pas du tout espagnol, il était judéo-arabe. Ensuite, quand les chrétiens ont reconquis l'Espagne, ça a été traduit en espagnol. Mais toute la grande philosophie juive de l'âge d'or, du Moyen-Âge espagnol, était en arabe, n'était pas du tout en espagnol. Je pense que c'est clair. Bon, maintenant, pour revenir au deuxième profil, le juif ashkenaz dans les pays chrétiens a vécu la problématique Jacob chez Ésaü. Celle-là, on ne l'a pas encore étudiée, on est sur la première, Yitzhak, Ishmael. Mais vous comprenez bien. Aujourd'hui, ça commence à se mélanger. Et alors, les ashkenazim sont plus tellement ashkenaz qu'avant, les sfaradim plus tellement sfaradim qu'avant, alors on croit que ça ressemble, mais du point de vue de la problématique d'exil, c'était très différent comme sentiment intérieur vis-à-vis de l'étranger, de celui chez qui on vivait, le goy chez qui on vivait. Alors, il en est résulté un profil psychologique radicalement différent. Un juif ashkenaz et un juif sfarad n'ont pas le même profil psychologique dans ce problème-là de la relation d'exil. Pourquoi ? Parce que le juif ashkenaz était condamné à une problématique beaucoup plus difficile que celle du juif sfarad. Il se trouvait chez quelqu'un qui se prétendait être lui Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, il en est résulté un profil de psychisme juif très précis et, je crois, qui est le mieux illustré par Kafka. Imaginez, je pense que c'est clair. Un phénomène comme Kafka, vous ne pouvez pas le trouver dans la littérature sfarade. Parce que, d'abord, les sfaradim sont dans des pays où il y a du soleil. Kafka dans un pays de soleil, ça n'existe pas. Mais surtout, c'est que l'autre, le goy, c'était le musulman, pas le chrétien. C'était quelqu'un qui reconnaissait la préexcellence théologique du judaïsme, mais qui avait un problème politique absolu de nier la dignité sur terre aux juifs déchus, et dont on réclame la terre. Je vous répète les formules que j'ai peut-être employées une fois. Les chrétiens nous disputaient le ciel. À la rigueur, ils peuvent nous aménager une place sur terre. À la rigueur, on vous donnera la citoyenneté française. Bon, à certaines conditions. Tandis que les musulmans ne nous ont jamais disputé le ciel. D'ailleurs, quand un musulman pieux parle à un juif pieux et qui parle du ciel, il lui dit la maison de ton père. C'est l'arabe qui parle au juif. En arabe, il ne lui dit pas le ciel, il lui dit darbalak, ça veut dire la maison de ton père. Ils savent que le ciel, ça appartient aux juifs. Mais c'est la terre qui leur enlève. Vous avez compris ? D'ailleurs, c'est deux problématiques radicalement différentes. Et c'est clair jusque-là ? Alors, comme je le disais, il en résulte un profil psychologique et littéraire très différent. L'âme sfarade, si j'ose dire, elle est nostalgique parce qu'elle est en exil, mais elle n'est pas angoissée. Elle sait qu'elle est Israël. Le goy, lui dispute pas son identité d'Israël. Tandis que l'âme ashkenaz a été angoissée parce qu'elle se trouvait dans une cité qui lui disputait son nom d'Israël. Je pense que c'est clair. Et ça a été une épreuve d'exil beaucoup plus difficile à ce niveau-là. Au niveau de la persécution physique, c'était équivalent, mais au niveau, si vous voulez, de la situation psychique, c'était très différent. Et vous remarquerez une chose, c'est que traditionnellement, jusqu'au temps contemporain, il n'y a jamais eu aucun rabbin ashkenaz qui ne s'est mesuré théologiquement avec l'Église. C'était un problème tabou. Alors que ça s'est passé chez les Sfaradim. Les Sfaradim, rencontrant le problème de la chrétienté, sont décontractés. Ils sont à l'aise. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils sont fous, ces Romains. Vous voyez ce que je veux dire ? On entend parler de Goïm, de Rome, qui se prennent pour Israël. Bon, alors on rigole un peu, et puis on ne prend pas ça au sérieux. C'est une religion païenne exotique qui s'affuble du nom d'Israël. C'est clair ? Pourquoi ? Parce qu'on part du paysage musulman. Dans le paysage musulman, il n'y a pas du tout de contestation d'identité. Il y a une contestation politique, mais pas d'identité. C'est clair. Vous avez compris le problème. Et vous verrez d'ailleurs dans l'histoire. Bon, aujourd'hui, ça change parce qu'il y a l'État d'Israël, il y a l'identité israélienne, et elle profite aux deux, aux Ashkenazim comme aux Sfaradim. Mais dans l'histoire, il n'y a que les rabbins Sfaradim qui se sont mesurés théologiquement à l'Église. Jamais, pas un seul Ashkenaz.
Même en Italie ?
En Italie, c'était les Sfaradim, ceux qui l'ont fait. À qui tu penses ? À Ben Amozek ?
Non, parce qu'en Italie, c'était bien dans une civilisation chrétienne.
Oui.
Donc
oui,
c'était mais... les Sfaradim dans une situation d'Ashkenaz.
Oui, c'est juste. C'est juste. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais parler de ça, mais je pense surtout à Rambam, l'Ahmanide. L'Ahmanide qui a dû supporter les controverses, comme on disait en ce temps-là, avec les jésuites, et puis qui a été vainqueur dans les controverses, mais les jésuites se sont arrangés pour se venger de lui, alors il a diagnostiqué que c'était impossible d'avoir un dialogue avec les chrétiens, il a décroché de l'Espagne, il a fondé la première communauté sfarade de la vieille ville. Vous avez entendu parler de la synagogue Rambam, okay? Et il est venu en Israël. Et c'est un signe très important, c'est-à-dire le diagnostic de Nahmanide, qu'il était impossible de dialoguer avec. Il avait la protection du roi, que s'il était vainqueur, il était vainqueur dans la discussion. Or, il a été vainqueur, mais les jésuites ont déclenché des pogroms pour le punir d'avoir été vainqueur. Alors, il a diagnostiqué que c'était impossible de rester chez ce barbare, et puis il est parti. Mais il est parti tout seul, les juifs espagnols sont restés, d'où la suite. Bon. Alors, en tout cas, tout seul, presque. Pour revenir à notre problème, rappelez-moi pourquoi je vous ai parlé de cette parenthèse.
À propos d'Israël.
Oui, mais à propos de quoi ?
La reconnaissance d'Israël. La contestation de l'identité juive contre la terre. La contestation se fait sur la terre.
C'est cela. Bon. C'est-à-dire que la contestation, c'est sur l'héritage terrestre. Alors, habituez-vous bien à cela. C'est que, je vous donnerai peut-être un schéma un peu plus élaboré tout à l'heure, le problème qu'il y a entre Yitzhak et Ishmaël, c'est la terre. Et nous verrons que dans l'histoire, c'est Jacob qui va venir au secours d'Isaac dans son conflit contre Ishmaël. Je vais en parler, puisque nous sommes là-dedans, c'est le sujet. Je vais en parler un peu plus en détail. Alors qu'inversement, le conflit entre Ésaü et Jacob, finalement, c'est concrétisé dans le conflit entre Rome et Jérusalem, dans ces deux étapes, d'abord la Rome païenne et ensuite la Rome chrétienne, et le conflit est théologique, spirituel. Ça porte sur l'identité qui est Israël, d'Ésaü ou de Jacob. Et vous verrez donc l'importance de ces récits qui nous montrent comment il y a le déplacement des bénédictions, le déplacement de l'identité, jusqu'à ce que finalement c'est Jacob qui soit nommé Israël par la Rome. Or, l'Église a hérité du dossier Ésaü. Si vous posez la question de façon très simple, qui, n'étant pas Jacob, se prétend être Israël ? Dans notre récit, c'est Ésaü, il prétend aux bénédictions d'Israël. Dans l'histoire, c'est la chrétienté. C'est si bien clair. Donc, j'ai une minute. Et alors, là aussi, nous verrons que Isaac va venir au secours de Jacob dans son problème contre Ésaü. Alors que Jacob vient au secours d'Isaac dans son problème contre Ishmaël. Et rappelez-moi que je vous donne tout de suite les versets qui le montrent. Qu'est-ce que tu veux ?
Et pourtant, ils ont changé dans leur leurs écrits des musulmans. Ils ont changé les noms de personnages en disant en anglais.
Par exemple ?
Je ne sais plus.
À quoi tu penses ?
J'ai vu qu'il y en avait parlé justement en disant que vous accusez d'avoir usurpé des noms,
Non, je n'ai pas pu dire ça, comme ça en tout cas. Ce que j'ai pu dire, c'est qu'ils avaient accusé les Juifs d'avoir été infidèles à la promesse de Dieu, et c'est pourquoi Dieu les a changés par la descendance d'Ishmaël, quelque chose de cet ordre. Mais même les théologiens musulmans sérieux reconnaissent que le sacrifice d'Isaac, c'est le sacrifice d'Isaac, Alors qu'au niveau de la théologie populaire de l'islam, il parle du sacrifice d'Ishmaël, mais dans le Coran, il y a le fils, il n'y a pas le nom. Okay? Mais les théologiens musulmans eux-mêmes reconnaissent qu'il s'agit d'Isaac. De toutes les façons, on ne peut pas annuler le fait que les patriarches hébreux, c'est les patriarches des juifs, pas des musulmans. Dans la caverne de Marpella, il y a Abraham et Sarah, et pas Abraham et Agar, et ils le savent eux-mêmes. Il y a Isaac et Rebecca, qu'est-ce qu'Isaac et Rebecca ont à voir avec les Arabes? Et il y a Jacob et Léa. Je pense que c'est clair. Qu'est-ce que tu dis?
Est-ce que les musulmans contestent la Torah, enfin l'écrit?
Non, ils disent que Dieu a d'abord donné son alliance par la Torah avec Moïse, mais que les juifs ont été infidèles à cette alliance. Et alors, c'est peut-être à ça que tu fais allusion, et ils accusent les juifs d'avoir tripatouillé les textes. Je croyais que tu parlais des textes du Coran.
Non.
Oui, mais d'ailleurs, cette accusation-là vient, vous savez que l'islam comme religion constituée est postérieure au christianisme. Et l'antisémitisme du Coran est postérieur à l'antisémitisme chrétien lui-même. Ils ont adopté des évangiles un certain nombre de positions anti-judaïques. Bien.
Et quand Dieu il a dit, on l'a appris avec Rivoli, quand Dieu il a dit, ton fils sera. La descendance, pour le sacrifice d'Isaac.
Oui.
Est-ce qu'il avait dit ton fils Isaac?
Oui. Karnaï, Binchet, Yahidecha, Sherafet, Yitzhak. À la fin du verset, Yitzhak est nommé.
Quand vous parlez des oppositions d'Israël avec Ishmaël qui se retrouvaient en pays d'Islam, et des Anu et de Jacob qui se retrouvent en pays chrétien, est-ce qu'on peut aussi comprendre, au niveau que vous avez expliqué pour la Tefila l'autre jour, que chaque individu, selon le soir, devait passer par différentes identités? Est-ce que ça correspond aussi à différents stades?
Je n'ai pas compris la question. Répète, je n'ai pas compris. Peut-être qu'il y a une phrase qui m'a échappé.
Quand on parlait de la Tefila l'autre jour, à propos de Shema Israël, vous nous avez expliqué que selon le soir, l'histoire des patriarches était aussi à comprendre comme une histoire par laquelle passait chaque individu.
Pas seulement l'histoire des patriarches, je vous ai dit, quelque chose de beaucoup plus global. L'histoire de l'humanité tout entière depuis le premier homme. Ouais. Que nous la vivons sous forme de tendance. Okay, c'est au niveau de la quatrième lecture du créchement qu'on a eu. Et alors, quelle est la question?
Est-ce que quand vous parlez de l'opposition Israël-Ishmaël en pays d'islam qui ne serait pas la même que l'opposition Yaakov et ça en pays chrétien, est-ce qu'on peut aussi le comprendre à ce niveau-là?
En le rattachant à un principe que je vous ai déjà peut-être expliqué, c'est que les trois exils correspondent à l'histoire des trois patriarches. Vous vous rappelez de cela? Bon. Et l'exil d'Égypte correspond à l'histoire d'Abraham, l'exil de Babel à l'histoire d'Isaac et l'exil de Rome à l'histoire de Jacob. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la même épreuve d'identité qu'ont vécu les patriarches à l'échelle individuelle, leur descendance à l'échelle collective a en faire la preuve corollairement à tel ou tel empire et donc à tel ou tel exil. Par conséquent, l'exil actuel, c'est le problème de Jacob et d'Ésaü, de l'exil de Rome. Il y a un appendice qui est Ishmaël. Alors que la confrontation avec ce que représentait Ishmaël s'est faite dans l'empire perse. Vous vous rappelez du Maharal sur Ishmaël, c'est la Perse, vous vous rappelez de ça? D'une certaine manière, je vais vous éclairer ça autrement. Depuis l'État d'Israël, il s'avère que l'exil d'Israël en pays d'Islam, c'est-à-dire l'identité sfarade de la Galoute, a pris fin. La preuve, c'est que toutes les communautés sfarades ont quitté les pays d'Islam pour rejoindre les pays chrétiens, ou Israël, ceux qui ne sont pas venus en Israël. Et finalement, les sfaradim ont rejoint le problème des Ashkenazim. C'est clair? Je crois que je vous en ai parlé une fois. Il reste il reste des anachronismes comme ce qui reste de juifs en Syrie, ce qui reste de juifs au Maroc, la Tunisie, l'Algérie, c'est pratiquement fini. Il y a quelques juifs perdus au Yémen, mais enfin, la dernière grande communauté en pays d'islam, c'était finalement les Éthiopiens, et puis ils ont failli venir tous, mais à cause d'une... Vous avez subi ce qui s'est passé, ce jour-là. Il est fort possible que, je ne sais pas, mais fort possible que, comme je connais les responsables de ces choses-là, que c'est intentionnellement pour empêcher, parce que trop d'Éthiopiens ici, c'est trop, alors on n'en veut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a fait dire à voix haute, arrêtez.
C'est grave.
C'est très grave. C'est déjà arrivé avec les Marocains, une fois, dans les années 50. J'assistais une fois à Paris à une réunion où un grand dignitaire israélien a réuni les chefs d'Ashkenazé. On me prenait pour un Ashkenaz. Et puis il était venu faire un appel au secours. On est inondé par les Marocains. Au secours. Quelque chose d'analogue. Bon, c'est des réalités humaines qui sont ce qu'elles sont. Et alors, vous verrez la suite de cette histoire d'ailleurs. Elle vient que de commencer. En tout cas, quoi qu'il en soit, le monde sfarad a mis fin à ce qu'a été le très long exil d'Israël en pays d'Islam. Bon, les facteurs sont très complexes. Ça a été cristallisé par la guerre des pays arabes contre Israël, qui a été un des facteurs les plus notables de l'émigration des Juifs sfaradim vers les autres pays. La décolonisation aussi a été un autre facteur. Mais on s'aperçoit déjà depuis assez longtemps d'une tendance des Juifs des pays de l'Islam, donc des Juifs sfarades, à préférer le type de civilisation occidentale, c'est-à-dire la problématique juive ashkénaze. Je pense que c'est clair. C'est bien compris. Par exemple, vous avez un phénomène comme l'alliance israélite universelle, surtout au Maroc et dans les autres pays d'Orient, qui le montre très, très clairement. L'objectif était d'occidentaliser les Juifs sfaradis. Mais ils se sont laissés faire. C'est-à-dire que pratiquement, ils étaient prêts à cela. Je pense que
c'est
clair.
C'est contradictoire, puisque vous avez dit qu'ils n'avaient pas ce problème d'identité. Pourquoi est-ce qu'ils le recherchent?
C'est pas qu'ils le recherchent. Étant donné qu'ils se déplacent dans l'ère de la civilisation occidentale, ils héritent de la problématique ashkénaze. C'est-à-dire, alors que, je vous ai dit tout à l'heure, un phénomène comme Kafka était impensable dans la littérature sfarade. Mais vous avez déjà, en France, des écrivains juifs d'origine sfarade qui ont pris cette même problématique. Je ne vais pas vous citer des noms, vous les connaissez, c'est pas la peine de les citer. C'est clair. Et essayez bien de comprendre cela par votre propre expérience. Vous avez lu un livre, je me rappelle du temps de ma jeunesse, comme Les rêveurs du ghetto. Ça vous dit quelque chose, Zangwill? Bon. Enfin, lorsque le juif Ashkenaz, émancipé, commençait à parler de lui, il commençait d'abord à dénoncer cela, le fait qu'il était pris dans une problématique où on lui réclamait sa propre identité. Et il se réveillait le matin, il entendait les cloches. Et il entendait les cloches, ça veut dire tu as tué l'autre. Okay. Il allait dans la campagne, il ne pouvait pas traverser un carrefour sans voir un suspendu. Okay. C'est-à-dire qu'il était renvoyé à ce problème de façon permanente. Alors que ça n'a pas été le cas des Juifs sfaradis, ils savaient très bien que leur identité était admise par l'islam, mais ce qu'on lui refusait, c'était les prérogatives politiques de cette identité. On ne lui refusait pas son identité spirituelle, on lui refusait son identité politique. Alors que chez les chrétiens, c'est l'inverse. L'identité politique, à la rigueur, on vous la donne, mais ce qui est refusé, c'est l'identité spirituelle. Par conséquent, la problématique psychique d'un juif de l'exil, en pays chrétien ou en pays musulman, a été radicalement différente. Je pense que c'est clair jusque-là.
Qu'est-ce que tu veux dire? L'analyse de la rivalité entre Ismaël et Isaac, et Isaac et Isaac, n'a pu être faite qu'à la naissance de ces deux religions.
C'est vrai, quand?
Qu'après la naissance de ces deux religions.
C'est une très bonne question. C'est-à-dire que lorsque ces deux religions se sont développées, ce sont elles qui ont imposé leur problématique à cette situation-là. Mais les pays qui sont devenus musulmans, et en particulier les Arabes, les pays qui sont devenus chrétiens, en particulier les Romains, existaient déjà. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai fait allusion à ces deux niveaux, la Rome païenne, la Rome chrétienne par la suite. Lorsque ces deux religions se sont constituées comme telles, elles ont enfermé leurs juifs dans leur ère d'influence. Et ce n'est que de notre temps que la relation entre les juifs et les goïms passe au-delà de la mosquée ou de l'église. Jusqu'à l'État d'Israël, eh bien, les juifs étaient reliés aux goïms, soit à travers la mosquée, soit à travers l'église. Vous comprenez ce que je veux dire? Depuis l'État d'Israël, ça change. C'est-à-dire, on n'a plus à passer par cette médiation-là. Il peut y avoir une relation directe de juif à goï sans passer par le chrétien ou le musulman. C'est pas facile, mais c'est en train de se mettre en place. Vous avez compris la différence. C'est-à-dire, c'est finalement l'islam qui a incarné la querelle d'Ismaël. Et c'est finalement, par exemple, vous avez un pays comme l'Indonésie. Quel rapport avec les Arabes et les Juifs? Aucun. Eh bien, l'Indonésie vote comme un seul homme, chaque fois qu'à l'ONU, il faut condamner Israël sur le problème palestinien. Pourquoi dire... Parce qu'ils sont musulmans, pas parce qu'ils sont arabes. Vous comprenez le problème?
Ça veut dire que jusqu'à la naissance de la religion d'Ismaël, il n'y a pas eu ce...
Jusqu'à la naissance de la religion d'Ismaël, cette prétention d'Ismaël à l'héritage n'était pas formulée. Elle se dévoile à ce moment-là, et puis à partir de ce moment-là, les Juifs étaient en exil déjà. Elle éclate de notre temps, parce que c'est la première fois de l'histoire de l'islam que le peuple juif réclame sa terre qui est l'objet de la contestation entre Ishmaël et Isaac. D'où cette levée de bouclier qu'on va lire dans le Zohar de l'islam tout entier. Qui dit non au retour des juifs sur leur terre? L'islam, c'est-à-dire Ishmaël. Je pense que c'est clair.
Pourquoi des peuples qui ne sont ni chrétiens ni musulmans comme les Chinois, le Japon sont aussi anti-Israël?
Parce qu'ils sont pris dans la problématique politique contemporaine, c'est-à-dire en tant que marxiste. Marxiste, c'est même pas le mot qu'il faudrait dire. En tant que faisant partie des pays du tiers-monde. Je vais essayer de vous donner un profil général de ce problème. Et voilà, en 48, on va ouvrir une petite parenthèse, mais c'est une description qui me semble très importante. En 48, le peuple juif a décidé de revenir sur sa terre. Bon, il s'est heurté au refus d'Ismaël. Et Ismaël, c'est bien sûr les pays de la Ligue arabe, il y a 21 pays arabes, 22 même, et puis c'est tous les pays d'islam. Ça fait un ensemble de l'humanité considérable. Et il faut savoir que nous sommes en guerre avec ce monde-là, même si sur telle ou telle frontière, il y a un armistice provisoire, qu'on essaie de consolider le plus possible, par exemple avec l'Égypte, mais tout le monde sait bien qu'il s'agit d'un armistice et ce n'est pas une paix vraiment, etc., quels que soient les mots qui sont employés et les exigences qu'on peut avoir de paix. Donc, depuis 1948,